bonjour à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, avec aujourd'hui Didier, Mathieu et puis Claude, hein, comme toujours à la technique, toujours présent, fidèle au poste. Et aujourd'hui, nous fera le plaisir de faire la programmation musicale. Merci, merci Claude. Alors, l'émission de ce soir est consacrée à la réforme de la justice. On l'a intitulée Réforme de la justice, quel enjeu pour demain ? Et eh bien, nous interrogerons ensemble sur les conséquences des 5 années de sarkozysme sur le système judiciaire. Et puis sur les réformes en cours actuellement, donc par la nouvelle garde des Sceaux, Christiane Taubira. En effet, quels que soient les points de vue, hein, on s'accorde tous à dire que depuis la mise en place de la 5e République, eh bien, l'indépendance de la justice n'a jamais été autant à l'ordre du jour. Et donc, on se posera la question de quel bilan peut-on tirer aujourd'hui des différentes réformes qui ont eu lieu au cours de ces dernières années. Et quel espoir pouvons-nous porter dans l'actuel gouvernement en la matière et dans les réformes qui sont prévues et pour certaines déjà en cours. Voilà, donc pour discuter de cette question, eh bien, nous avons invité aujourd'hui Mathieu Bonduel, hein, qui est ancien président du syndicat de la magistrature et aujourd'hui actuel juge d'instruction à Créteil. Donc comme tous les quatrièmes vendredis du mois, eh bien, vous pouvez nous appeler au 01 40 05 06 10 pour intervenir à tout moment si vous le désirez. Mais surtout, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la Fondation Copernic, www.fondationcopernic.org, et vous la retrouvez comme toutes les émissions déjà depuis maintenant plus de 2 ans. Hein, voilà. Donc bientôt, donc un petit jingle et on va démarrer cette émission. Eh bien, bonjour Mathieu Bonduel.
Bonjour.
Bonjour. Eh bien, écoutez, peut-être qu'avant de démarrer ce débat ensemble sur la justice, peut-être nous dire un petit peu comment vous vous situez. Vous êtes donc ancien président du syndicat de la magistrature. Est-ce qu'on peut en 2 mots, situer le syndicat de la magistrature, où est-ce qu'il se situe, et surtout qu'est-ce qu'il fait, hein, ce syndicat, quel est son rôle aujourd'hui?
Eh bien, le syndicat de la magistrature, historiquement, c'est le premier syndicat de magistrats. Il a été créé en juin 1968, ce qui n'est pas complètement un hasard, même si ses fondations étaient déjà jetées depuis la fin de l'année 1967. Bon, c'est le premier syndicat de magistrats, et à l'époque, c'était en soi le fait d'adopter la forme syndicale dans la magistrature, une petite révolution par rapport aux mœurs de l'époque. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas toujours encore complètement admis. Par la suite, d'autres syndicats ont vu le jour. En 1974, l'Union syndicale des magistrats, qui est aujourd'hui, et plus tard, en 1997, FO magistrat. Et aujourd'hui, le rapport de force entre ces syndicats, en gros, c'est dans les urnes, hein, lors des élections professionnelles, le syndicat de magistrature, c'est aux dernières élections 25% des voix, donc un quart de la magistrature, un peu plus. Et l'Union syndicale des magistrats, c'est près de 69% des voix.
C'est le
très
syndicat majoritaire, c'est ça.
Et FO magistrat, relativement résiduel, puisque en dessous de 8%. Clairement, le syndicat de magistrature a toujours revendiqué une identité de gauche, ce qui veut à la fois dire beaucoup de choses et pas tout, puisqu'évidemment la gauche c'est vaste. Et il y a toute la gauche dans le syndicat de la magistrature, donc avec toutes les contradictions et les variations que ça suppose. Mais pour nous, ça n'est pas une difficulté de se situer dans cet héritage-là. L'autre syndicat, on va dire, hein, le gros syndicat majoritaire, lui, se dit apolitique, ce qui pour nous ne veut pas dire grand-chose, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. En tout cas, voilà, nous sommes à gauche, mais nous tenons beaucoup, et c'est d'ailleurs, là-dessus, le syndicat a été précurseur à une expression indépendante de tous les pouvoirs en place, bien entendu, quelle que soit leur couleur. Et ça, c'est utile de le rappeler, puisque si je dis gauche, ça ne veut pas dire pour autant que quand le pouvoir en place est dit de gauche, ça change grand-chose dans nos positionnements. Nous avons une doctrine et un programme qui nous est propre, enfin des idées qui nous sont propres.
Ça renverra à un débat certainement qu'on aura plus tard sur l'indépendance de la justice, je présume.
Oui.
Mais néanmoins, peut-être pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, peut-être c'est pas forcément connu, hein, je dirais, de manière très très précise par le public. Oui, un magistrat, c'est quoi? Un syndicat, une magistrature, il syndique qui?
Alors, les magistrats, ce sont les juges et les procureurs, pour le dire vite. C'est-à-dire, les juges, juges d'instruction, juges des enfants, juges de l'application des peines, juges d'instance, juges des tutelles, par exemple. Donc, les juges qui font du civil, les juges qui font du pénal, tous ceux qui jugent. À l'exception des jurés, qui sont des citoyens, évidemment, tirés au sort. À l'exception aussi des juges des tribunaux de commerce, puisque ce sont des commerçants qui siègent dans les tribunaux de commerce. À l'exception aussi des conseillers prud'hommes, des salariés ou des représentants des employeurs qui siègent au conseil de prud'hommes. Donc tous ceux qui jugent en dehors de ceux que je viens de citer, hein, pour le dire vite, et les procureurs, c'est-à-dire ceux qui poursuivent, qui décident si tel fait mérite d'être poursuivi et comment. Est-ce que si on trouve avec quelqu'un dans la rue avec 2 grammes de shit, ça mérite... qu'est-ce que ça mérite? Tant que c'est pénalisé par la loi, est-ce que on décide une voie très forte comme la comparution immédiate, on est jugé très vite après sa garde à vue, ou est-ce qu'on va plutôt faire une injonction thérapeutique ou etc. Je vais très vite. Donc ça, ce sont les magistrats par opposition, mais c'est pas une opposition, mais par distinction avec les avocats, parce que souvent, parfois.
Eh oui, c'est pour ça que je pose la question.
Avec les avocats qui, eux, alors là, les juges et les procureurs ont fait la même école, ils appartiennent au même corps, ils exercent des fonctions
sociales. Ils sont des fonctionnaires.
Ils sont fonctionnaires d'État, voilà, et donc ils sont payés par le ministère de la Justice. Ils ont pas exactement les mêmes garanties. Les juges ont plus de garanties d'indépendance dans les textes que les procureurs, mais ils appartiennent au même corps et ils ont quand même un socle de garanties communes. Dans leur carrière, ils peuvent passer de l'un à l'autre. On peut être juge des enfants un jour et demain substitut du procureur, c'est-à-dire être au parquet du côté des procureurs. Bon, et alors tout ça par distinction avec les avocats qui, eux, passent un examen différent, organisé régionalement, alors que le concours de la magistrature est national, et sont formés donc dans des centres de formation régionaux, et donc pas la même école, et puis qui, eux, défendent, assiste, conseille, donc ne juge pas et ne poursuive pas. C'est pour résumer.
Du coup, dans le syndicat, est-ce que il y a des sections différentes entre le siège et le parquet, des revendications qui peuvent être aussi un peu différentes, ou finalement par rapport au fait qu'on peut être l'un ou l'autre dans sa carrière.
Il y a au syndicat de magistrature, comme d'ailleurs dans les autres syndicats, il y a des juges et des procureurs, hein, pour le dire vite. Chacun apporte aussi des choses en fonction des fonctions qu'il exerce, et c'est sûr que le vécu, même si je déteste cette expression, n'est pas forcément le même au parquet et au siège, mais à vrai dire, ça compte pas tant que ça dans nos débats internes, même si ensuite on peut avoir des débats, et ça c'est un débat récurrent chez nous, sur est-ce qu'il faut maintenir cette unité du corps, c'est-à-dire est-ce qu'il faut laisser les juges et les procureurs dans le même corps, ou est-ce qu'il faut les séparer? Si on sépare, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire est-ce qu'on fait 2 magistratures, ou est-ce qu'on fonctionnarise les procureurs, comme c'est le cas dans certains pays, en Allemagne par exemple? Donc ça c'est un débat qui revient souvent, mais en l'état, la position du syndicat, c'est d'être favorable à l'unité du corps, c'est-à-dire que nous souhaitons que les juges et les procureurs restent magistrats, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on n'ait pas des revendications pour que les procureurs soient plus indépendants, parce qu'aujourd'hui, les procureurs, dans les textes, dans les têtes, c'est autre chose, mais dans les textes, manquent de garantie d'indépendance.
Je crois que c'est un des débats qu'on pourra avoir tout à l'heure, justement, sur les actuelles réformes qui sont menées, qui sont proposées par Christiane Taubira, et on verra peut-être quelles sont effectivement plus avant vos propositions. Peut-être que tout simplement démarrer par ce qui a beaucoup marqué l'actualité ces dernières années, hein, le passage à la fois de Sarkozy au ministère de l'Intérieur dans un premier temps et ensuite en tant que président de la République. On sait tous que ça a laissé pas mal de traces, hein, en matière de vision qu'on peut avoir des peines, de la criminalité et de la justice en général. Est-ce qu'on peut déjà, comme ça, rapidement dresser un premier portrait de la période Sarkozy, même si elle dépasse le quinquennat tel qu'on le connaît?
Ah oui, elle dépasse le quinquennat, parce que, en tout cas, pour moi, il y a un double quinquennat Sarkozy en matière de justice et de police, puisque Nicolas Sarkozy était très central dans le gouvernement Chirac. enfin dans le pendant le dernier quinquennat Chirac, et donc il y a une continuité très nette quand même entre les politiques qui ont été menées en matière de justice et de police entre 2002 et 2007 et ce qui s'est fait ensuite. On pourrait, enfin ça prendrait beaucoup de temps évidemment de détailler tout ce qui a été fait et tout ce qui a été dégradé, mais évidemment on pense immédiatement aux lois sécuritaires, hein, et ces 10 années ont vu se succéder un certain nombre de lois extrêmement rétrograde et parfois clairement liberticide, alors dans différents secteurs. À noter quand même que la répression, enfin la volonté de réprimer davantage était à géométrie variable, c'est-à-dire que pendant qu'on réprimait toujours plus les gens du voyage, les étrangers, les prostituées, les pauvres, bon,
les Roms déjà à l'époque.
Ouais, déjà bien sûr, mais on réfléchissait simultanément à la dépénalisation du droit des affaires. Donc il faut pas simplement voir ces années-là comme disons un renforcement global de l'arsenal répressif. En fait, c'est un renforcement différencié. Hein, c'est-à-dire que si pour les uns, on voulait moins de répression, et pour les autres, toujours plus. Il faut quand même le rappeler. Mais alors, cela dit, quand même, le volet répressif est énorme. Donc, il y a eu les lois Perben 1, Perben 2, Sarkozy. Alors là, on peut même plus donner de numéro. Enfin, la loi notamment sur la sécurité intérieure de 2003 qui était particulièrement critiquable. Et puis, ensuite, on a vu arriver, donc là, pour le coup, sous le quinquennat Sarkozy, Madame Dati. Et donc, de nouveaux dispositifs, par exemple les peines planchers, la rétention de sûreté. Ça prendrait du temps d'expliquer tout ça, mais on y reviendra si vous voulez. Bref, plusieurs axes. Les mineurs ne sont plus des mineurs, au nom de l'idée que les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'en 1945. Ça, on l'a entendu à peu près 1500 fois. Et donc, il faudrait, c'est ce qui a été fait, déconstruire le droit des mineurs pour l'aligner sur le droit des majeurs, alors qu'on était plutôt favorable à l'inverse, à vrai dire. Donc ça, c'est un volet. Et puis sinon, création de multiples infractions, on favorise le traitement rapide, voire expéditif, donc la comparution immédiate, on élargit les possibilités de mettre des gens en détention provisoire, alors qu'ils sont, je le rappelle encore, à ce stade présumés innocents, on augmente les peines encourues, bref, il faudrait, ça prendrait des heures hein, de décrire tout ça, mais enfin, en gros, une dégradation, de la justice pénale française, qui n'était pas merveilleuse avant, mais disons, qui a été défigurée pendant ces années-là.
Je pensais à des mesures qui semblaient un peu emblématiques tout de même, la rétention de sûreté,
oui.
Les peines planchers, les tribunaux correctionnels pour les mineurs,
oui.
Toutes choses qui, on verra peut-être après, vont être retravaillées et redétricotées par...
Ou pas.
Et oui.
C'est toute la question.
D'accord. Et puis, alors, je pensais aussi, alors, deux choses peut-être sur lesquelles on pourrait s'arrêter. La réforme constitutionnelle de 2008, justement, sur le lien entre le parquet et le pouvoir politique, parce que c'est un petit peu ça, quand même, qui est aussi un peu intéressant de discuter. C'est ce lien entre pouvoir politique et pouvoir judiciaire. Est-ce que là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé un peu?
Alors là, il faut distinguer plusieurs choses. Il y a les pratiques et il y a les textes. Et il y a différentes sortes de textes. Dans les pratiques, pendant ces années-là, on a vu un pouvoir politique véritablement sans gêne dans ses relations avec l'autorité judiciaire, c'est-à-dire n'hésitant pas à critiquer publiquement...
On se rappelle des invectives absolument fortes.
Et même parfois en s'en prenant personnellement à des magistrats.
Absolument.
Lorsque telle ou telle personne était libérée et récidivée, par exemple, ou n'était pas incarcérée et ne récidivait jamais, d'ailleurs, mais certains hauts responsables politiques, des ministres, le président de la République lui-même, lors du dernier quinquennat, parfois s'en prenait très directement aux magistrats. Donc ça, c'est une chose, et c'est vrai que c'est pas rien, même si ce sont des mots, ce n'est pas rien. Et il se trouve qu'en plus, il y a eu un mouvement dans les textes. Alors, je dirais il faut distinguer deux choses. D'abord, comment on réaffirme la position de soumission des procureurs. Alors ça, c'est 2004 plutôt. C'est-à-dire qu'on vient dire, en gros, hein, et d'ailleurs Rachida Dati le dira exactement comme ça plus tard sur un plateau de télé, on met le garde des Sceaux à la tête des parquets et on dit qu'il est en quelque sorte le chef des procureurs. Donc, c'en est fini de l'autonomie et de la liberté d'appréciation, finalement, des procureurs. Enfin, en tout cas, c'était l'intention. Bien sûr, les pratiques sont un peu différentes. Mais en tout cas, il y a eu là une volonté de reprise en main, enfin, ou en tout cas, de soumission totale des procureurs. Autre aspect, différent, c'est pour ça que je me permets de les distinguer, c'est que parfois, on s'en prend à l'indépendance des magistrats, non plus dans les structures institutionnelles, mais dans les dispositifs qu'on met en œuvre, par exemple les peines planchers, c'est-à-dire on va dire au juge comment il doit juger, on va le ligoter dans sa décision, et là il n'aura pas besoin d'avoir un ordre écrit ou téléphonique, il y a un texte de loi qui va venir sur lequel il va se heurter, et alors ça c'est
l'obligation des peines planchers.
Alors c'est en cas de récidive, on peut y déroger dans un certain nombre d'hypothèses parce que sinon ça n'aurait pas été constitutionnel, hein, donc il y a des exceptions qui ont été prévues, et les magistrats ont pour certains, pour beaucoup, utilisé ces exceptions pour éviter, non pas, c'était pas par souci de désobéissance permanente, mais pour éviter de prononcer des peines injustes dans des cas qui leur étaient soumis.
Vous avez des exemples sur les peines planchers? C'est vrai qu'on en parlait beaucoup à l'époque, on en parle toujours, mais sur des délits précis, pour donner une idée un peu.
Ah bah, c'est-à-dire, vous pouvez
auditeurs.
Retrouver, par exemple, en matière de stupéfiants, où les faits sont punis de 10 ans. Hein, toute détention de stupéfiants, transport de stupéfiants, acquisition de stupéfiants, y compris du cannabis, hein,
et pas puni lié à sur des le quantités, papier de
indépendamment des quantités, puisque la loi ne distingue pas les quantités. Après, les juges, évidemment, adaptent, mais c'est 10 ans encourus. C'est-à-dire, on risque 10 ans de prison. Et si on est en récidive, on risque 4 ans de prison, si je ne m'abuse. Donc, enfin, on risque 4 ans en peine planchée, je veux dire, hein, puisque en récidive, on risque 20 ans, c'est-à-dire le double. En récidive, on risque toujours le double. Mais la peine planchée, elle a été de 4. C'est-à-dire que si le juge ne fait pas exception à la règle, si il ne motive pas spécialement sa décision au regard des garanties d'insertion de la personne, bon, eh bien, c'est 4 ans, quelle que soit la quantité, quelle que soit la personnalité. Donc, cette loi-là, qui est une loi de juillet 2007, elle est particulièrement scandaleuse parce que elle vient dire in abstracto, abstraitement au juge, comment ils doivent décider, alors que la justice, c'est précisément l'inverse. La justice, c'est du sur-mesure, c'est du cas par cas, on tient compte de la personne, des faits exacts, parce que les faits ne sont jamais...
familial, économique...
Voilà. Avant, voilà. Cette peine penchée, c'était dans la loi, c'était des fourchettes.
Alors, avant, il y a un maximum, voilà, il y a un maximum, sachant qu'en cas de récidive, ce maximum est doublé. Donc encore une fois, en matière de stup, on risque 20 ans. En matière de vol, on risque 6 ans. En matière d'escroquerie, on risque 10 ans en récidive. Hein. Donc le juge avait déjà une certaine latitude. S'il avait envie de cogner, passez-moi l'expression, il avait tout à fait la possibilité de le faire. Mais le présupposé Sarkozy, c'était de dire les juges ne cognent pas assez. Cognent pas assez par rapport à quoi? On ne sait pas bien. Alors par rapport, soi-disant, aux besoins de la population.
Par rapport à l'augmentation de la criminalité.
Ouais. En réalité, par rapport à une perception idéologique des choses qui consiste à penser que, et de manière très générale, sans rien connaître des dossiers,
que la répression
est trop faible et si elle était plus forte, serait efficace. Ce qui évidemment n'est pas scientifique, hein. Là on est dans de l'idéologie pure. Moyennant quoi, quand nous, toutes tendances confondues, les magistrats se sont largement opposés à cette loi, enfin en tout cas n'étaient pas favorables à cette loi, toutes tendances confondues, les magistrats de droite, de gauche, et en passant, arrêtons de voir les magistrats comme un corps
un clivage politique
hyper
forcément.
À gauche, enfin à gauche, voire rouge, comme on l'entend parfois, globalement, la magistrature est plutôt sociologiquement de centre-droit. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de raison que les magistrats soient des gauchistes d'un point de vue sociologique. Donc arrêtons un peu avec ce mythe aussi. Le fait est que même des magistrats de centre-droit ou de droite n'étaient pas favorables à
ce mythe et à la vie dure, puisqu'on voit en Italie que là, il a été jusqu'à son paroxysme, enfin, avec les positions qu'a pu adopter Berlusconi sur les rouges. Enfin, c'est quand même une grande tendance aujourd'hui à expliquer que lorsqu'il y a un problème politique, on l'explique par le fait que les juges veulent absolument politique.
Ouais, il y aurait une histoire à faire de ça, c'est-à-dire de la perception de la justice par les forces de droite et notamment par la droite affairiste. Bon, et on comprendrait peut-être pourquoi les juges sont considérés comme des ennemis. Bon, mais cela dit, les gouvernements de gauche ont aussi porté des atteintes à l'indépendance des magistrats. On se souvient par exemple de Lionel Jospin, Premier ministre à l'époque, qui après la libération d'une personne mise en examen pour braquage, qui était surnommé le Chinois, l'affaire du Chinois, ça rappellera peut-être des choses à certains, eh bien, à l'Assemblée nationale, avait critiqué la décision de libération de cette personne. Dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, donc s'érigeant en voie d'appel, en quelque sorte, de la décision, enfin c'était la Cour d'appel, donc en l'occurrence, en Cour de cassation, en quelque sorte. Cette tentation-là, c'est la tentation de tous les pouvoirs politiques. Mais il se trouve que à droite, ces dernières années en tout cas, la droite sarkozyste particulièrement, il y a une tendance très très forte, effectivement, au dénigrement permanent du travail de la justice, à la délégitimation des juges, avec une espèce de stratégie hein, qui se voit assez bien, qui est de jouer le peuple contre les juges. Alors qu'en réalité, par ailleurs, on demande aux juges d'être toujours davantage contre le peuple, d'embastiller toujours plus le peuple, d'accorder moins de temps au peuple, d'être moins respectueux des droits du peuple. Donc là, il y a une escroquerie idéologique qu'il faudrait prendre le temps de démonter. Mais c'est là-dessus que Nicolas Sarkozy, quand même, a fondé en partie son ascension et sa carrière politique. Il a avoir du succès en étant ministre de l'Intérieur et en disant « Moi, je suis la fermeté et les juges, cette caste... » En plus, les juges sont pas aimables, d'une manière générale. Les gens n'aiment pas les magistrats, à la fois pour des raisons sociales et parce que rejuger, c'est toujours ne pas faire plaisir à un certain nombre de personnes. Ça mange pas de pain. En plus, on a un tout petit corps, donc électoralement, ça ne coûte rien de se mettre à dos éventuellement même tous les magistrats de France, puisqu'on est 8000 et quelques. Hein, donc franchement, ça n'a pas...
chuter la droite. Non. Absolument. Mais si on en revient un petit peu, parce que vous expliquiez, on a d'abord effectivement l'empreinte idéologique du sarkozysme, et puis on a les textes. Alors sur les textes, on revient un petit peu aux textes.
Oui.
Il y a eu la réforme du Conseil supérieur de la magistrature aussi qui a marqué cette époque. Non, je me trompe ou pas ?
C'est vrai. Là, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de l'aspect sécuritaire, des atteintes dans les pratiques, etc. Bon, sur le plan des institutions proprement dites, une réforme a été entreprise en 2008 du Conseil supérieur de la magistrature. Alors là, on n'est pas dans quelque chose...
Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est quoi ?
Alors, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'organe qui, d'une part, vient donner son avis sur la nomination des magistrats. Donc, il a un rôle dans la gestion de la carrière des magistrats.
Les nominations qui sont réalisées par...
Il gère ses pairs.
Alors, il gère plus ou moins. C'est-à-dire que celui qui gère en premier lieu, en l'état des choses, c'est le ministre de la Justice, qui va proposer des nominations à ce Conseil supérieur de l'administration. Il va dire, pour tel poste, je voudrais nommer Monsieur Truc. Bon, et le CSM va dire oui ou non. Si on parle d'un procureur, si Monsieur Truc est un procureur, un substitut du procureur, enfin un magistrat du parquet, le CSM peut dire oui ou non, le ministre peut passer outre. Donc s'il dit non, je veux dire, le ministre peut passer outre. Pour le magistrat du siège, là, si le CSM dit non, là, pour le coup, le ministre ne peut pas passer outre. Donc c'est une garantie.
Ça, c'est dans la réforme ou c'était déjà le cas ?
Alors ça, non, ça c'est comme ça depuis longtemps. Et justement, réforme de 2008, et là, on se dit, bon, quitte à réunir le Congrès, quitte à faire une réforme de quelque chose d'aussi important institutionnellement que le Conseil supérieur de la magistrature, eh bien, donnons-lui peut-être davantage de pouvoir. C'est évidemment pas ce qui a été fait. Puisqu'on est resté dans un statu quo. En gros, on a simplement permis maintenant au CSM de donner son avis, mais encore une fois, non contraignant, pour les procureurs généraux. Parce qu'avant, les procureurs généraux étaient nommés en Conseil des ministres. Donc les procureurs généraux, c'est en gros celui qui est au-dessus du procureur au niveau de la Cour d'appel. Et avant, eux étaient nommés en Conseil des ministres sans qu'on demande l'avis de personne, ce qui permettait évidemment des nominations extrêmement politiques. Bon, mais ça, un avis non contraignant, ça ne changeait pas grand-chose. Donc on n'a pas changé la nature du système. Et la nature du système, c'est que c'est le garde des Sceaux, qui est donc évidemment un responsable politique, qui choisit, qui gère la carrière des magistrats avec un rôle du CSM qui est un petit peu malheureusement accessoire, même si il essaie de le jouer parfois selon les époques, selon les compositions, plus ou moins courageuses, il essaie de jouer son rôle. Mais enfin voilà, la structure du système, c'est quand même que c'est le ministre qui a l'initiative des choses. Ça, c'est son premier rôle au CSM. Le deuxième, c'est la discipline. La discipline des magistrats, c'est-à-dire que c'est le CSM qui a à connaître des affaires dans lesquelles les magistrats sont mis en cause pour des fautes disciplinaire. Donc c'est lui qui juge les juges et les procureurs quand ils commettent une faute disciplinaire. Voilà ce qu'est le CSM. Et en 2008, en gros, bon, ça serait très long d'en parler, mais on n'a pas changé grand-chose. La seule chose qu'on a changé, je vais très vite là-dessus, c'est qu'on a mis les magistrats en minorité au sein de ce CSM. Mais ça n'est pas nécessairement une mauvaise chose, du moins à nos yeux, au syndicat de la magistrature, parce que nous ne souhaitons pas que le corps s'autogère à ce niveau-là, ou plus exactement, nous ne souhaitons pas que la carrière des magistrats et leur discipline se gère entre syndicats, hein, parce qu'en réalité, ça pourrait être ça la dérive, et pas qu'entre syndicats, aussi avec tout un tas de logiques de réseau internes qui sont tout à fait malsaines. Donc, qu'on ait mis les magistrats en minorité, en soi, ne nous pose pas de problème. Le problème, c'est que ceux qui sont majoritaires, c'est des personnalités extérieures, elles sont nommées par le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Donc autant dire qu'elles manquent sérieusement de garantie d'indépendance sur le papier, après indépendamment de leur qualité propre. Voilà, donc là, une réforme, je dirais en demi-teinte, c'est pas forcément la pire des réformes qui étaient entreprises sous Nicolas Sarkozy, mais évidemment, elle n'a pas été, on peut pas dire qu'elle a été dans le sens d'un renforcement de l'indépendance des magistrats, même si elle a eu un effet bénéfique. Cette mise en minorité des magistrats a mis un terme à certaines logiques de réseau dans la gestion de la magistrature.
C'est à peu près le seul effet positif qu'on pourrait donc tirer de la période Sarkozy, alors globalement.
Non, bon, enfin, si, c'est-à-dire que il y a une autre réforme qui est importante, qui est très importante, c'est la ce qu'on appelle la QPC.
Oui, c'est ça.
La question prioritaire.
C'est pas question pour un champion, mais une question prioritaire de constitutionnalité.
Donc ça, c'est évidemment très important parce que c'est la possibilité donnée aux gens, aux justiciables, dans une affaire, de faire trancher la question de savoir si la loi qu'on veut leur appliquer est conforme ou pas à la Constitution. Alors qu'avant, la question de la conformité à la Constitution
ne pouvait pas être posée par le citoyen.
Voilà, elle n'était pas posée
uniquement par
seuls les politiques, voilà,
seuls
les parlementaires, avec un certain quorum, pouvaient le faire. Et évidemment, parfois, le jeu politicien étant ce qu'il est, il s'abstenait de poser la question sur tel texte où il n'y avait pas assez de candidats pour aller poser la question au Conseil constitutionnel, si bien qu'un certain nombre de lois sont passées comme ça. Bon, alors ça, c'est une grande avancée. Alors après, il faut relativiser l'apport de Nicolas Sarkozy, non pas en tant que personne, mais enfin, on va dire en tant que chef dans cette réforme, parce que c'était quand même un peu le sens de l'histoire d'aller vers un meilleur contrôle de constitutionnalité.
Badinter avait essayé de l'instaurer.
Oui, voilà. Il y avait déjà eu des tentatives avant, et c'est des choses qui étaient déjà largement préparées avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. On ne peut pas dire que ce soit une réforme de droite ou de gauche. Elle est partie de ces réformes qui ont suscité quand même un large accord dans la classe politique et qui sont le produit d'une longue évolution. Et c'est quand même important parce que ça a permis pas mal d'avancées. On a fait ressurgir des vieux textes et on a fait constater par le Conseil constitutionnel qu'ils n'étaient pas conformes à nos exigences constitutionnelles. Après, il y a une chose qu'on n'a pas faite, et ça, bon, enfin, en tout cas, je reste pour l'instant sur la droite, mais que la droite n'a pas fait, c'est qu'elle a donné beaucoup plus de pouvoir donc à ce Conseil constitutionnel, un pouvoir énorme, puisqu'il peut carrément abroger une loi. S'il dit la loi en question n'est pas conforme à la Constitution, elle est de fait, enfin le morceau de loi, hein, c'est jamais toute une loi, mais est abrogée, supprimée du code, alors que c'est une loi qui a été votée par le Parlement quand même.
Oui,
bon,
donc
c'est un pouvoir énorme. Et alors, bizarrement, en fait pas du tout bizarrement, mais on n'a pas changé la composition de ce Conseil constitutionnel, dont la légitimité est quand même discutable.
Dont les présidents de la République sont eux-mêmes membres.
Alors déjà, on a tous les anciens chefs d'État, ce qui est une singularité mondiale. Tous les anciens chefs d'État sont là-dedans, d'une part.
Et qu'ils ont
on peut dire qu'ils ont été à l'origine d'un certain nombre de choses. Enfin, voilà, ça pose quand même des questions. Et puis, les autres membres sont des membres désignés, là encore, par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Donc, il n'y a pas de véritable garantie démocratique de la composition du Conseil. Donc, on lui a donné beaucoup de pouvoir et en même temps, on n'a pas, assuré son indépendance et son impartialité, ce qui pose quand même un gros souci.
Sa composition. Bien, bah écoute, je crois qu'on a bien vu le sujet. On va peut-être faire une première pause musicale. Et là, on a aujourd'hui, pour ce premier morceau, les frères Jacques, Fredo.
On le connaît depuis la communale, le gars qui est là sur la photo, à la première page du journal, mais on le reverra pas de si bon. De leur saloperie de guillotine, un même aussi gentil. «
Eh bien, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Bonduel, ancien président du syndicat magistrature et actuel juge d'instruction à Créteil. Dans cette première partie d'émission, Mathieu Bonduel, on a un petit peu fait ensemble le bilan de la période Sarkozy, qui a été longue, hein, on l'a vu, elle a démarré lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, et ensuite lorsqu'il était directement président de la République. On a vu toutes les réformes qui ont pu être mises en place. Alors évidemment, aujourd'hui, la situation est un peu différente. On a un gouvernement de gauche aux manettes, si j'ose dire. Alors la première question, évidemment, qu'on est tenté de vous poser, c'est que fait ce gouvernement de gauche avec ces réformes que vous avez qualifiées pour certaines de liberticides, hein, on voit bien. Voilà, première question peut-être un peu pas forcément simple à répondre, parce que ça engage évidemment tout un processus, mais est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation où globalement on est en train de revenir sur toutes ces réformes qui ont été prises, ou est-ce qu'on est un petit peu entre les deux, ou est-ce qu'on est carrément en situation où pour l'instant pas grand-chose ne bouge?
Ah, pour l'instant pas grand-chose ne bouge. Alors ce qu'il faut bien dire, c'est que François Hollande n'avait pas promis grand-chose en matière de justice.
Ça, c'est effectivement...
On peut pas lui enlever ça. Il n'avait pas promis grand-chose. Alors, en matière pénale, qui est toujours un peu présentée comme la vitrine, alors qu'en réalité, la plupart des gens ont plus de probabilité d'avoir affaire à la justice civile, notamment à la justice aux affaires familiales, hein, qu'à la justice pénale. Mais il est toujours beaucoup question de justice pénale en matière politique. Ses promesses étaient assez... courte, on va dire, c'était supprimer les peines planchers. Nous sommes un an et demi plus tard, elles sont toujours là.
Elles sont toujours là.
Elles sont toujours là. Revenir, l'expression était celle-ci, revenir sur la rétention de sûreté. La rétention de sûreté, je rappelle, c'est le fait de pouvoir garder enfermés des gens après la fin de leur peine, des gens qui ont été condamnés pour un crime à au moins 15 ans de réclusion criminelle. Ils ont fait toute leur peine, donc au moins 15 ans. Et après, on peut les garder enfermés, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de nouveau, mais sur la base d'expertise, enfin d'un regard pluridisciplinaire, mais c'est-à-dire en gros d'expertise psychiatrique, hein, pour le dire clairement, censé déterminer leur potentiel de dangerosité. Ce qui a hérissé le poil de pas mal de psychiatres et de magistrats, notamment nous au syndicat de la magistrature, parce que on est dans une sorte de prédictivité, quoi.
Bon, on estime que le passé étant ce qu'il est, l'avenir ne pourra pas être vraiment,
tué,
quoi.
Qui a tué, tuera. Qui a violé, violera. Donc on n'est plus dans la punition d'une personne pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle est, ou plutôt pour ce qu'elle est censée être, ce qu'on pense qu'elle est, parce qu'en réalité, on peut pas démontrer scientifiquement qu'une personne est dangereuse. Ça ne veut rien dire d'un point de vue scientifique. Mais bon. Alors ça, c'est par exemple, ça, c'est quelque chose, c'est une ignominie sur le plan juridique. Enfin, j'utilise ce mot à dessein parce que c'est vraiment quelque chose de grave. La gauche, toute la gauche, toutes les composantes de la gauche se sont opposées très fortement à ce texte à l'époque. Ce texte est toujours là. Des gens actuellement sont en rétention de sûreté. Voilà, donc ça, c'est deux illustrations là, ça, déjà. Peine planchère et tension de sûreté, deux choses qui avaient vraiment mobilisé.
Qui symbolisaient un petit peu quand même la politique.
La gauche du Parti Socialiste à ce qu'on appelle l'extrême gauche. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement socialiste et il ne revient pas sur ces deux choses-là. Bon, ça pose quand même un souci. Alors, vous allez me dire où est le problème?
C'était pas mis à l'agenda, c'est pas encore mis à l'agenda non plus.
Alors, on en parle sans cesse. Ouais. On en parle sans cesse. En tout cas, les peines planchères, on en a beaucoup entendu parler. Madame Taubira a répété à plusieurs reprises qu'elles seraient supprimées. Mais elles ne sont pas supprimées à l'heure qu'il est. On est quand même un an et demi après l'élection de François Hollande, quoi. Quant à la rétention de sûreté, on en parle de moins en moins. Et on a le sentiment aujourd'hui que il se pourrait bien qu'à la fin de ce quinquennat, elle n'ait pas été abrogée. Et puis alors, si elle n'est pas abrogée, enfin, c'est pas le terme juridiquement exact, mais allons-y comme ça, abolie si vous voulez. Si elle n'est pas abolie maintenant, elle le sera plus après. Hein. Ça paraît compliqué. Donc pour les peines planchers, la dernière position exprimée par François Hollande, c'est les supprimera quand on aura trouvé en gros quelque chose pour les remplacer. Alors qu'il n'y a rien pour remplacer les peines planchers. C'est un dispositif qui porte atteinte à la liberté d'appréciation du juge. Je dirais même à l'idée même qu'on peut se faire du métier de juge, quoi,
de la justice.
Donc il n'y a rien à remplacer. Rien ne vient démontrer que les peines planchers aient fait baisser le taux de récidive. et améliorer la sécurité des Français. Rien, rien du tout. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que ça a augmenté la surpopulation carcérale, qui aujourd'hui encore est démentielle.
Mais alors, est-ce qu'elle, qu'elle a baissé d'ailleurs depuis...
Non. Les plus gros taux ont été atteints récemment.
D'accord.
Donc c'est-à-dire qu'elle n'a cessé d'augmenter. Y compris donc depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande.
Et elle avait nettement augmenté durant les 2002-2012.
Voilà, elle a clairement beaucoup augmenté. Alors il y a quelques variations, mais globalement la tendance a été à la hausse pendant les années Sarkozy. Et ça ne s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas arrêté. Et ce qu'on constate quand on regarde un peu plus près, c'est surtout que les peines sont de plus en plus longues. C'est surtout ça qui fait qu'il y a de plus en plus de détenus.
Les gens restent. Donc plus longtemps.
Les gens restent plus longtemps. Donc on cogne plus. Donc ça, pour le coup, on peut dire qu'un certain nombre de textes ont certainement eu un effet. Après, on ne peut pas le mesurer de manière très très précise, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête du juge au moment où il juge. Donc voilà. Bon, en tout cas, ça, on peut le dire. Dans le ressort qui est le mien, moi, je travaille à Créteil, donc c'est dans le Val-de-Marne. La prison du Val-de-Marne, enfin la prison qui est dans le ressort, c'est Fresnes. À Fresnes, il y a 168% de taux d'occupation. Ça donne une petite idée. Il y a des endroits où on arrive à 200, voire où on dépasse les 200, notamment dans certains territoires d'outre-mer. Bon. Donc, et là-dessus, la situation est identique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pourrais donner d'autres exemples de ce qui ne bouge pas, mais globalement, on a l'impression que ça ne bouge pas. Alors, la faute à qui ? Est-ce que c'est Christiane Taubira le problème ? Je vous donne mon avis personnel, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit Christiane Taubira le problème. Le problème, très clairement, c'est le président de la République. C'est-à-dire que le président de la République a décidé, ça se voit, je veux dire, tous les jours, privilégier l'intérieur, comme l'ont fait ses prédécesseurs, et de donner plus de place ou d'importance aux positions de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, qu'à celle de Christiane Taubira, garde des Sceaux.
Dans un débat assez classique, finalement.
Voilà. C'est assez classique, c'est tristement classique, et on aurait pu attendre autre chose, puisqu'en plus, lors de la nomination du premier gouvernement, le rang protocolaire de Christiane Taubira était très élevé, en tout cas était supérieur à celui du ministre de l'Intérieur, ce qui pouvait symboliquement laisser penser que la justice avait retrouvé une place importante en termes de contrôle des forces de police, de garantie des libertés et des droits. Bon. En réalité, en tout cas sur le plan politique, en termes de réforme, etc., on voit bien que Christiane Taubira est relativement isolée.
Alors néanmoins, alors j'ai lu qu'elle voulait lancer un grand débat. J'ai lu qu'il y avait un rapport qui va être remis prochainement, un rapport d'Elmas Goyon, c'est ça, je me trompe ?
Ah oui, alors il a été remis. Enfin, beaucoup de débats ont été lancés. Donc il y a eu d'abord une conférence de consensus sur la prévention de la récidive. Donc là, c'était l'idée de réfléchir à comment prévenir la récidive, mais sans recourir aux vieilles recettes qui n'ont pas marché et qui par ailleurs portent atteinte au principe, c'est-à-dire les recettes sécuritaires, pour le dire vite. Et comment on peut faire en sorte d'aménager davantage les peines ou de trouver d'imaginer des peines qui ne passent pas nécessairement par la prison, avec tous les effets pervers de l'incarcération, etc. Bon, pour l'instant, donc c'est un travail qui était assez intéressant, pluridisciplinaire, assez intéressant, mais qui a débouché sur des propositions assez ambitieuses, mais qui ont été largement affadi, appauvri, sous l'influence de Manuel Valls. On se souvient d'une passe d'armes assez forte, quand même, en plein été, entre Manuel Valls et Christiane Taubira sur ce sujet, et manifestement, la tête de l'exécutif a tranché en faveur de Manuel Valls, avec le soutien, ce qui est un peu une donnée nouvelle, dans la magistrature, le soutien du syndicat majoritaire, apolitique, mais dit-il, mais qui, en l'occurrence, a été hostile aux options politiques de Christiane Taubira, a été favorable à celle de Manuel Valls. Bon, comme quoi, parfois, on fait de la politique sans le
savoir.
Sans le savoir, je pense pas. En tout cas, sans l'assumer.
En tous les cas, sans le dire.
Sans l'assumer, voilà. Ça a été un grand débat. Qu'est-ce que ça va donner ? Pour l'instant, on n'en sait rien, puisque la réforme est reportée après les municipales.
C'est ça, je vois.
Christiane Taubira a souhaité que ça ait lieu avant. Jean-Marc Ayrault a tranché, ça aura lieu après. Qu'est-ce qui restera ? On verra.
Ça dépendra
en fonction de l'ampleur de la déroute ou pas.
Et dans le rapport, il préconise quand même la suppression des peines planchers ou pas ?
Oui, alors ça c'est redit, c'est repréconisé, mais c'est toujours pas fait. C'est-à-dire que nous, ce que nous pensons, c'est qu'il aurait été possible de commencer par nettoyer le code pénal d'un certain nombre d'absurdités dangereuses.
Et peut-être venir
et après d'avoir après de prendre un peu plus le temps de quelque chose d'ambitieux et qu'il faut faire aussi. Moyennant quoi, on a entamé quelque chose de très ambitieux pour finalement descendre largement de plusieurs crans par rapport à l'ambition affichée et ne toujours pas supprimer ce qui mériterait de l'être.
sur l'actuel gouvernement et les mesures de la ministre. Et donc, pour l'instant, pas grand-chose.
Voilà, d'autres débats. Alors, vous parliez du rapport de Mme Goyon. Il y a aussi une commission qui s'appelle la commission Nadal qui a rendu son rapport. Bon, là, en gros, pour le dire vite, il y a des débats, des réflexions ont été lancées sur comment on pourrait moderniser le ministère public, c'est-à-dire le parquet, les procureurs, en gros, hein, le travail des procureurs. Bon. Et de l'autre, ça c'est le rapport Nadal. Et le rapport Delmas Goyon, c'est sur un thème pompeusement intitulé Justice du 21e siècle. C'est comment moderniser le fonctionnement des tribunaux, le travail des juges. En réalité, ce qui se dessine, je vais très très vite, donc c'est un peu caricatural, mais cela dit, c'est quand même des tendances lourdes, donc il faut en parler. Ce qui se dessine, c'est essentiellement un redécoupage de la carte judiciaire. C'est-à-dire qu'on va nous refaire une réforme de la carte judiciaire.
Oui, j'allais dire, c'est un peu, on en a entendu parler, ça, déjà.
Madame Dati en avait fait une, qui était en gros un saccage, hein, puisqu'on avait supprimé plus de 400 juridictions pour en créer 14. Donc en gros, c'était un découpage à la tronçonneuse. Et donc on a éloigné la justice des gens, on a déplacé des personnels dans des conditions, bon, je n'y reviens pas. Là, aujourd'hui, on voit se dessiner, mais de manière un peu déguisée, une réforme de la carte judiciaire, puisqu'on vient nous dire d'un côté qu'il faudrait créer un tribunal de première instance, ce qui est quand même, je pense, la dernière préoccupation des Français, des magistrats, qui serait un tribunal départemental, en gros. Et on nous dit aussi qu'il faudra un parquet départemental. Donc, en fait, c'est surtout ça l'ambition en termes de structure qui semble se dessiner. Et c'est très, très loin de ce qu'il faudrait faire. Il y a tellement de choses à faire pour que les magistrats soient plus indépendants, plus proches des gens, pour que l'accès à la justice soit simplifié. Bon,
mais je vous propose une seconde pause musicale et on viendra peut-être après, justement, sur cette question de qu'est-ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en tous les cas, tel que le voit le syndicat de la magistrature. Et bien là, ça sera Charles Trenet qui va chanter « Je chante ».
Copernic, l'émission de ce soir, toujours consacrée aux réformes de la justice. Mathieu Bonduel, je voulais revenir sur les oppositions auxquelles on a assisté entre le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, et la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Sur quel point, précisément, ils ont des désaccords et quelle est un peu la légitimité du ministre de l'Intérieur de s'impliquer sur les questions judiciaires ?
Alors ça, c'est une très bonne question, puisque effectivement, il y a une tradition qui s'est installée dans notre pays, au terme de laquelle les ministres de l'Intérieur se mêlent des questions de justice, voire sont à l'initiative sur ces sujets-là, revendiquent un rôle primordial. Bon, et Manuel Valls est bien s'inscrit dans cette tradition-là, c'est-à-dire qu'il vient alors donner son avis, ça paraît logique, mais prendre le pas sur la garde des Sceaux, sur des sujets qui pourtant relèvent du périmètre de la garde des Sceaux. Et c'est le cas de la réforme pénale. La réforme pénale, c'est précisément ce dont doit accoucher en quelque sorte la conférence de consensus dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire comment repenser un peu notre justice pénale qui aujourd'hui est asphyxiée et qui surtout est en perte de sens, puisqu'on envoie toujours plus de gens en prison sans que ça ait d'effet en termes de prévention de la récidive et de la délinquance en général. Donc comment repenser la peine, comment repenser le travail du juge au pénal, etc. Bon. Et là, Manuel Valls ne s'en est pas caché, il a fait une note au président de la République, il a surtout fait en sorte, je pense, on peut tous le penser, qu'elle de la faire fuiter dans la presse presse. Et à partir de là, il a revendiqué une place au moins égale, sinon supérieure à celle de Christiane Taubira. Et le fait est qu'il a gagné, puisque lui, il faudrait rentrer dans le détail des propositions. Mais par exemple, on est revenu sur des seuils qui avaient été prévus par la loi pénitentiaire, pourtant portée par Rachida Dati à l'époque, pour favoriser les aménagements de peine. Et en gros, on est revenu sur ces acquis là, sous l'influence de Manuel Valls, c'est-à-dire que avant, en gros, quand on prenait 2 ans d'emprisonnement, ça pouvait être aménagé dès le début. Quand on n'était pas en récidive, hein, je vais au plus vite. On est redescendu à 1 an, ce qui était le cas avant la loi pénitentiaire de 2009. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, enfin, ce qui est affligeant, mais intéressant, c'est que ça, c'est quelque chose qui a été obtenu par Manuel Valls avec le soutien de la frange la plus conservatrice de la magistrature, qui fait alliance, et c'est un peu historique, c'est pour ça que je le dis, c'est pas pour régler des vieux comptes, parce que ça n'a aucun intérêt, j'ai rien à régler en plus, bon voilà, moi je suis dans mon tribunal, mais j'ai constaté ça de manière un peu triste, c'est-à-dire qu'on a quand même le syndicat majoritaire de magistrats qui fait alliance avec le ministre de l'Intérieur pour raboter les textes de la garde des Sceaux dans un sens qui est défavorable à l'aménagement des peines, alors que l'aménagement des peines a fait ses preuves. À l'inverse de l'incarcération ou de la sortie sèche de prison, c'est-à-dire sans rien, sans aménagement, en fin de peine, on ressort. Et puis après...
Parce que bien évidemment, on n'a pas le temps de traiter cette question, mais il y a tout le débat autour de la sortie de prison, tout ça, c'est évidemment...
Voilà. Donc là, alors là j'ai pris un exemple, hein, mais c'est vrai qu'on a une option qui est beaucoup plus sécuritaire chez Manuel Valls. Ça a été un point de fixation de cette différence. C'est quand même l'option qui est favorisée par Jean-Marc Ayrault et par François Hollande. Bon, donc c'est un choix politique. C'est un choix politique. Alors, on peut pas dire que François Hollande avait fait rêver beaucoup d'autres choses. Il avait pas non plus promis énormément. Il avait pas promis une rupture franche et nette avec le sécuritaire. Mais enfin, tout de même, dans certains discours à l'époque, sans doute pour rassurer un peu les magistrats, les avocats, hein, les avocats aussi, parce que les avocats électoralement, pour le coup, pèsent beaucoup plus lourd que les magistrats. Il paraissait plus net. En l'état, toutes ces ambitions, ces quelques ambitions affichées, sont pas du tout traduites dans les faits. Hein.
Je vais être naïf, mais quand même, la justice, c'est un beau mot, quand même, quelque part.
Ah, c'est peu de le dire. Hein.
On est quand même étonné que ces questions-là, finalement, soient traitées sous un aspect. Voilà, d'abord, où le ministre de l'Intérieur peut s'ériger en ministre de la Justice sans que des voix s'expriment quelque part. On n'a pas, je dirais, dans le champ intellectuel ou ailleurs, des voix qui s'élèvent un peu là-dessus.
Très peu. Nous, on fait notre travail à notre niveau. La Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France, des associations de défense des droits de l'homme font leur boulot. Mais c'est vrai qu'au niveau de ce qu'on appelle les grandes voix, tradition très, très française, de l'intellectuel qui intervient dans l'espace public, on entend peu de choses. Et il faut attendre que Christiane Taubira soit la cible d'une énième attaque raciste. Parce qu'on a attendu, c'est pas à la première, hein, que les réactions se sont vraiment déclenchées. Il a fallu la une de minutes, dont on n'attendait pas moins d'une certaine manière. Par contre, quand Christiane Taubira a été prise pour cible en raison de la rupture qu'elle voulait, en tout cas qu'elle a affichée, hein, moi je suis pas dans sa tête, mais elle a affiché une volonté de rompre avec le tout sécuritaire et avec le tout carcéral. Elle a été très durement attaquée. Personne n'est venu à ce moment-là à la défendre. Il faut comprendre qu'elle cristallise des haines assez différentes. Il y a la haine sexiste, il y a la haine raciste, il y a la haine homophobe autour du débat sur le mariage pour tous, et puis il y a aussi la haine sécuritaire, quoi. Et ça, on en parle très peu. Parce que je crois qu'il y a une défaite culturelle de la gauche sur ce sujet depuis des années, c'est-à-dire que c'est devenu une espèce de sens commun, le sens sécuritaire. Et donc là, elle a fait quelque chose qui est très important malgré tout, même si à la fin elle perd sur beaucoup d'arbitrage, elle a essayé de renverser la vapeur culturelle, c'est-à-dire de faire entendre une autre voix. Et ça, là-dessus, on peut pas le lui enlever, même si par ailleurs, son bilan en termes de réforme, est très proche de zéro, mais je suis pas sûr que ce soit complètement de son fait. En tout cas, en termes de culturel, elle a fait quelque chose. Mais si elle est toute seule à le faire, avec des éléments de la société civile comme nous, mais je veux dire, s'il n'y a pas un Premier ministre pour la soutenir, s'il n'y a pas, et comme vous le dites, des intellectuels pour se mobiliser sur ce sujet, on va avoir du mal à la renverser, cette vapeur.
Et c'est peut-être un peu justement la dernière question qu'on voudrait aborder avec vous. C'est, alors voilà, bon, dans ce contexte, hein, qui est quand même visiblement lourd, maintenant, comme on peut dire, un petit peu déjà ancien, hein, parce que ça fait quand même pas mal d'années que cette affaire-là traîne. Quels sont un petit peu vos modes d'action et quels sont un petit peu les champs sur lesquels vous aimeriez justement essayer d'avancer?
Ah, il y en a tellement que
je vais pas parler de revendications parce que c'est pas le sujet, mais voilà, plutôt en termes de grandes orientations sur lesquelles il faudrait vraiment essayer d'avancer, au-delà des revendications qui pourraient être, je présume que vous en avez en tant qu'un syndical, et
ah oui, on en a même beaucoup. Voilà. En fait, il y a deux volets, quoi. Il y a le judiciaire pur où on a plein de revendications pour faire respirer cette institution judiciaire, la démocratiser de l'intérieur, rendre les magistrats plus indépendants. Je vais pas trop du coup m'étendre là-dessus par rapport à votre question. Il y a tout le volet, on va dire, sociétal, si j'ose dire, où là on a beaucoup de choses à proposer. Par exemple, est-ce qu'on peut pas repenser ce que j'appellerais de manière un peu pompeuse, mais bon, le périmètre de la pénalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit rester pénal, qu'est-ce qu'il faut punir, qu'est-ce qu'il faut pas punir, et comment surtout. Parce qu'il y a peut-être d'autres manières de punir que la punition pénale, si j'ose dire, c'est-à-dire la répression pénale.
Pour les choses à prison.
Voilà, notamment en particulier la prison. Comment repenser la place de la prison à l'intérieur même du pénal? Donc déjà, qu'est-ce qui reste pénal, qu'est-ce qui ne reste pas? Donc nous avons des réflexions sur ce qui pourrait être dépénalisé. Donc là-dessus, le débat est interdit. Même si vous voulez parler de stupéfiants aujourd'hui, alors même que la guerre à la drogue, ce qu'on a appelé la guerre à la drogue, a été un échec cuisant au niveau mondial, alors même que des grandes voix au niveau mondial s'expriment en faveur de la dépénalisation de l'usage des drogues, voire de la légalisation contrôlée de certaines drogues, eh bien en France, c'est un sujet complètement tabou. Voilà, c'est un sujet parmi d'autres. On pourrait aussi essayer de réfléchir à un meilleur contrôle de l'action de la police par la justice. Aujourd'hui, nous avons une police qui répond à une double tutelle, qui est sous la tutelle de son ministre de l'Intérieur, et c'est la tutelle la plus forte, et puis qui doit aussi évidemment travailler sous le contrôle des juges et des procureurs, mais qui en réalité...
Si on prend votre cas personnel, le procureur, quelque part, il a un rôle sur la justice,
bah oui,
sur
la police, pardon. Normalement, les procureurs, les juges d'instruction...
Votre cas personnel,
les juges d'instruction, normalement, ils dirigent l'action de la police. Et l'état de policiers, d'ailleurs, qui jouent très bien le jeu, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'ils ont une tutelle très forte, ils ont une hiérarchie très forte, et donc il faudrait, c'est ce que nous proposons, ça existe dans d'autres pays, au Portugal, en Italie, rattacher à la justice, non pas à toute la police de France, mais des unités de police judiciaire, c'est-à-dire d'enquêteurs, qui ne travailleraient que pour la justice. Parce qu'une fois que vous avez rendu les juges vraiment indépendants, et aujourd'hui ils ne le sont pas vraiment, une fois que vous avez rendu les procureurs plus indépendants, aujourd'hui ils ne le sont pas du tout, et bien il faut encore qu'ils puissent travailler avec des enquêteurs qui ont une certaine autonomie et qui travaillent sous leur seul contrôle et non pas sous le poids des directives chiffrées de leur hiérarchie et en dernière analyse du ministre de l'Intérieur. Donc il y a plein de choses à faire. Et ce qui est fou, c'est d'observer le manque total d'imagination, ou en fait en réalité plutôt de volonté, parce que les idées, ils savent très bien où elles sont, et pas que chez nous d'ailleurs, hein.
Pourtant j'ai lu évidemment dans des journaux qui sont pas forcément ceux qu'on peut lire de manière classique, mais on dit aujourd'hui Christiane Taubira n'écoute que le syndicat.
Ah oui, alors vous faites bien d'en parler, parce que ça m'est insupportable à entendre ces voix là le syndicat magistrature noyauterait la chancellerie, mais c'est totalement faux, et on peut le démontrer par A plus B. Il y a très peu de magistrats syndiqués qui sont dans le cabinet de Madame Taubira. Sa directrice de cabinet et son directeur adjoint de cabinet ne sont pas du tout des proches du syndicat de la magistrature. Après, qu'elle ait nommé des gens de gauche, pas d'ailleurs du syndicat, mais à certaines fonctions politiques, ça paraît assez classique, hein, pour le coup. Il n'y a pas du tout d'épuration au niveau des nominations de magistrats, et d'ailleurs, nous l'aurions contesté. Si Mme Taubira avait eu l'idée tout d'un coup de nommer 100 procureurs de gauche, en débarquant 100 procureurs de droite, sans respecter les règles, sans respecter les principes que nous défendons depuis toujours, nous aurions été les premiers à hurler. Donc ça, c'est un fantasme total. Enfin, c'est pas un fantasme, c'est un chiffon rouge qui est agité. Et ça me devient insupportable. En réalité, le syndicat magistrature est toujours le poil à gratter, que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir. Et ça, il suffit de lui demander à Mme Taubira, à mon avis. Elle vous dira qu'elle nous trouve trop critiques.
Bien, écoute, on aura vraiment beaucoup apprécié de pouvoir continuer cette discussion avec vous, parce que visiblement, on avait encore plein de choses à se dire. Malheureusement, écoutez, l'heure se termine et donc on va être obligé de se quitter. Je vous rappelle donc, vous pourrez écouter de nouveau cette émission sur le site de la Fondation Copernic, www.fondation-copernic.org. Et puis, écoutez, puisque les fêtes arrivent, je vous souhaite à tous et à toutes joyeux Noël et bonnes fêtes et bonne année. Et puis merci donc Mathieu Bonduel.
Merci à vous.
Non, c'était franchement très 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 intéressant. Et on va conclure sur Les chaussettes à clous de Boris Vian, qui sera tout à fait dans le ton.
Mutine, toujours à courte, elle donne à qui les porte une grâce virile et forte, et toujours de très bonne aloi. Dépouillée de tout équivoque, d'un noir d'encre sans rien qui choque, cuir de vache ou bien façon phoque, elle prenne force de loi. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des chastes gendarmes. Voyez le plaisant vacarme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous.